PMERadio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants des petites et moyennes entreprises, animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et Inextinso.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter PME Radio-TV. À mes côtés pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Et Johan Melloul, associé chez Inextinso Finance. Bonjour Johan.
Bonjour Pauline.
Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Julien Pemzec, directeur général de Woodeum. Bonjour Julien.
Bonjour Pauline.
Alors Julien, vous avez 42 ans. Après votre bac, vous vous intégrez Centrale Lille, puis Centrale Supélec, où vous vous spécialisez dans l'aménagement, construction et management de projets. Et c'est avec la casquette d'ingénieur, conducteur de travaux, que vous commencez votre parcours professionnel. On est en 2005 à Hong Kong. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement ce que vous faisiez là-bas ?
Oui, je sortais d'école, c'était un moment où on parlait beaucoup de la Chine et donc j'avais très envie d'y aller. Donc j'ai mis les bottes et le casque et je me suis retrouvé sur un chantier assez pharaonique piloté par Bouygues à l'époque, qui était une espèce de combinaison du parc de Bercy avec le parc des expositions. Donc tout dans la démesure qu'on peut imaginer à cette époque en Asie. Donc c'était un chantier absolument passionnant qui tournait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a rasé une île pour construire un centre dessus, enfin des trucs qu'on n'imagine pas du tout en France. Donc c'était une expérience absolument géniale, à la fois en termes humains, de management, et puis une belle expérience.
Voilà. Alors je poursuis, de 2006 à 2014, vous travaillez pour Sodearif Bouygues, aujourd'hui Linxity, où vous avez notamment en charge la gestion d'un portefeuille d'une trentaine d'opérations immobilières multiproduits. Un petit mot sur cette expérience aussi, c'était là aussi.
Oui, c'était intéressant. L'espace de un peu moins de 10 ans, j'ai pu participer à la construction d'une école, d'un centre aquatique, d'opérations de logement, de reconstruction sur des garages démolis, enfin un truc très varié, des opérations d'aménagement. Donc j'ai pu travailler à la fois sur la petite échelle, la grande échelle, sur des projets très variés, aussi bien privés que publics. Donc c'était une belle expérience.
Et en 2014, ouais. C'est là que l'aventure Woodeum commence. Pour rappel, Woodeum, c'est un promoteur immobilier spécialisé dans la réalisation d'immeubles bas carbone. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale, plutôt innovante hein, quand même, dans le ouais. monde de l'immobilier ?
J'ai toujours eu envie de créer une entreprise. Et en fait, quand on démarre l'immobilier, l'idée s'éloigne un peu parce qu'il faut tellement de moyens qu'on se demande bien comment on va réussir à le faire un jour. Et puis, j'ai rencontré Guillaume Poitrinal qui sortait d'une vraie success story chez Unibail et on s'est bien entendu. Et puis, y avait sa femme aussi à l'époque qui était dans l'histoire et est née en fait cette idée que le sujet de l'empreinte carbone allait devenir un élément déterminant dans l'immobilier et qu'il fallait trouver des moyens en fait, pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Alors ça semblait un peu technique il y a 10 ans, mais aujourd'hui ça semble une évidence et même la réglementation a rejoint les convictions qu'on avait eues il y a 10 ans. On était un an et demi avant la COP21 et à l'époque, les mauvais élèves, c'était le transport. Donc on tapait sur le transport toute la journée, c'était les grands pollueurs français. Et en fait, il y a une étude qu'on a menée avec Jean-Marc Jancovici à l'époque qui nous révèle que l'immobilier est aussi mauvais élève que le transport. C'est-à-dire qu'un tiers des émissions en France, comme le transport, c'est l'immobilier.
Il y avait du boulot.
Et ça a été un vrai choc pour nous parce qu'on avait plutôt l'impression d'être assez bons élèves à l'époque parce que dès qu'on produit des bâtiments neufs, ils sont toujours plus performants que l'ancien. Donc ça a entraîné quand même un cercle assez vertueux. Et malgré ça, en fait, on n'était pas du tout dans la bonne manière de réfléchir. Donc, on a un peu déconstruit notre manière de concevoir les bâtiments et puis remis au goût du jour un matériau qui avait traversé les siècles, mais qu'on a quand même bien oublié en France dans les dernières années, qu'est le bois, tout simplement.
Alors, on va revenir hein, dans le détail sur vos réalisations et votre manière justement de voir cette problématique. Mais quelques chiffres quand même pour qu'on puisse se représenter. Woodeum, aujourd'hui, c'est 80 collaborateurs en France avec un siège à Paris. Près de 5500 logements livrés ou engagés, ce qui représente un volume d'activité d'à peu près 1,8 milliard d'euros. Est-ce que j'ai les bons chiffres ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Et côté empreinte carbone quand même, puisque c'est le sujet aussi qui nous intéresse, un gain carbone de près de 165 000 tonnes jusqu'à aujourd'hui.
Ouais. Et là, bah, vous touchez précisément à l'ADN de Woodeum, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est réduire l'empreinte carbone de toutes nos activités. Et donc, bah, nous, on prend notre part sur l'immobilier avec bah, d'abord un moyen ultra efficace qui est le remplacement du béton par le bois. Il faut avoir en tête qu'à chaque fois que vous allez faire l'effort de remplacer un mètre cube, donc de béton par du bois, vous évitez d'émettre une tonne de CO2. Donc c'est un levier hyper puissant. Et puis après ça, bah, on a embarqué aussi plus de techniques, de technologies sur nos bâtiments pour qu'ils soient très bien isolés, très peu consommateurs d'énergie. Derrière, on a forcé aussi toute la chaîne de production du bâtiment à commencer d'abord à calculer son empreinte carbone. Et je peux vous dire qu'on était à des kilomètres de ça et qu'il y a encore beaucoup de travail. Et une fois qu'on sait où on en est, bah là, on peut commencer la cure d'amaigrissement. Et là, on accompagne en fait toute la chaîne de production pour émettre moins, quoi.
Alors, Guillaume Dozinel, des questions pour notre invité du jour.
Oui, ben justement, rappelez-nous quelles sont les spécificités des constructions en bois.
Oui, ben, en fait, les constructions en bois, c'est des immeubles qui sont conçus, donc la structure en fait, porteuse, donc les planchers, les murs porteurs de façade et les murs porteurs intérieurs sont faits en bois. On utilise un procédé qui s'appelle le bois massif, qui a été inventé dans les années 50 en France, qui a été noyé par le raz-de-marée du béton. Et puis, qui a été remis au goût du jour dans les années 90 par des Autrichiens, et là, dont la France est en train de se réemparer à vitesse grand V, boostée en plus par, aujourd'hui, un grand changement normatif qui s'applique à toute la construction neuve et qui va d'abord, enfin, qui dès aujourd'hui, en fait, contraint tout le monde à mesurer son empreinte carbone et dans quelques années va contraindre à l'usage des biosourcés. Et quelques années, c'est 2 ans. Donc, ça va venir très vite. Donc, il faut mieux être prêt.
Faut se préparer. Guillaume.
Quelques exemples de réalisations connues du grand public ?
Du grand public, je ne sais pas, mais on a réalisé la première tour en structure bois de France à Bordeaux, un bâtiment qui s'appelle Hyperion, avec un architecte très réputé qui s'appelle Jean-Paul Viguier. On a fait des grands ouvrages aussi en Ile-de-France avec Jean-Michel Villemotte, à Rueil-Malmaison ou ici les Moulineaux, par exemple. Là, un nouveau, si vous êtes parisien, vous allez forcément remarquer qu'au-dessus de la porte de Brancion, un immeuble en bois est en train de se monter et vous allez voir, ça va vite parce que globalement, c'est des bâtiments qui vont grandir d'un étage par semaine, quasiment, oui. Qui est un des autres avantages du bois. Ça, c'est une opération qui s'appelle OSTA et voilà, on en a quelques autres comme ça. Généralement, c'est des chantiers qui se remarquent parce que on n'est pas habitué à avoir des immeubles de 8-10 étages en bois. Donc, les gens les repèrent, quoi.
Oui, puis vous êtes aussi lauréat du concours organisé par la métropole du Grand Paris.
Oui,
alors dire plus.
Justement, oui, alors donc c'est un projet à Cergy-Pontoise, assez intéressant. On va en fait racheter l'ancienne patinoire de Cergy-Pontoise et plutôt que de la démolir, on va restructurer sa coque pour en faire un grand tiers-lieu dédié à l'artisanat et aux industries bas carbone. Et dessus, on va poser en surélévation une centaine de logements en structure bois. Et où là, en fait, l'avantage du bois, c'est en plus de son aspect très écologique dont j'ai parlé, hein, qui se traduit par une division par deux de l'empreinte carbone des bâtiments, eh bien là, on va utiliser la légèreté. C'est-à-dire qu'un bâtiment conçu en bois, il va être en moyenne 2 fois plus léger qu'un bâtiment classique. Et ça devient, du coup, un magnifique allié pour surélever des bâtiments ou construire sur des bâtiments existants.
Et enfin, que va vous apporter le rachat de Woodeum par Altaria ?
Beaucoup plus de moyens. Je l'ai dit, hein, la promotion immobilière, c'est un secteur qui a besoin de ressources financières. Et en fait, avec Altaria, il y a des synergies qui vont se créer avec le groupe, qui vont nous permettre de pouvoir se déployer sur la France entière, après avoir plutôt eu un ancrage très francilien. Et voilà, donc c'est en fait le début d'une nouvelle phase de croissance forte pour Woodeum.
Alors, pour parler de croissance aussi, il y a Johan hein, qui aime bien en parler.
Vous évoquiez à l'instant la réglementation en vigueur sur la construction. Est-ce que vous la jugez aujourd'hui adaptée au développement des immeubles nouvelle génération ou est-ce qu'il y a encore des freins par rapport à ça ?
Elle est très adaptée, elle est même très avant-gardiste. En fait, pendant longtemps, on a cru qu'un bâtiment écologique, c'est un bâtiment qui coûtait pas cher à exploiter. Donc la mesure de l'écologie, c'était le kilowattheure et l'euro en fait payé par l'utilisateur. Ça, on a compris maintenant que c'était l'ancien monde parce qu'en fait, en faisant ça, on a suréquipé des bâtiments et on les a rendus trop carbonés. Là, aujourd'hui, cette réglementation, et c'est une des premières mondiales, hein, en fait, elle contraint tout le monde à mesurer l'empreinte carbone de ce qu'il conçoit sur la phase construction, exploitation et même fin de vie. Donc ça, c'est une vraie révolution parce que c'est une mesure juste de l'écologie des bâtiments produits. Et après, cette réglementation, elle va devenir... Il y a un calendrier qui est déjà déterminé, donc en 2025, puis en 2028, puis en 2031, elle va devenir de plus en plus contraignante sur trois facteurs qui sont des éléments de confort en plus pour nous. Hein, c'est le confort d'été, l'isolation, donc là, c'est les charges directement que vous paierez, donc les bâtiments vont générer de moins en moins de charges à exploiter, et puis l'empreinte carbone dont on a déjà beaucoup parlé.
Vous intervenez sur l'immobilier professionnel également. Est-ce que les nouvelles pratiques sur le temps de travail au bureau sont-elles une menace ou une opportunité pour vous dans le cadre de votre activité ?
Ça va impliquer du renouvellement dans toutes les classes d'actifs de l'immobilier. Donc déjà aujourd'hui, on va demander au logement de faire peut-être un peu plus que son usage classique. Hein. Ça, c'est les effets Covid où on a adapté déjà à l'offre en fait les logements. Les logements doivent encore s'adapter aujourd'hui. Il y a un autre facteur exogène aujourd'hui, c'est plutôt les crises liées au financement. Et donc là aussi, en fait, c'est l'avantage du neuf. Hein. C'est comme on fait du sur-mesure et ce qu'on produit doit être up-to-date en fait directement et prêt à être mis sur le marché, ça s'adapte. Et puis sur le bureau, c'est la même chose. Probablement qu'on va assister à des concentrations en fait, sur l'immobilier d'entreprise. Les gens auront toujours besoin de bureaux, ça c'est une évidence. En revanche, l'immobilier va changer, c'est une évidence.
Et enfin, dans le cadre du rapprochement avec Altaria, on l'a évoqué, est-ce que vous positionnez dans une certaine stratégie de consolidation du secteur, notamment sur votre... activité.
C'est une conséquence peut-être, mais aujourd'hui, il n'y a pas quasiment peu ou pas d'acteurs qui font comme nous. Donc, c'est plutôt ça que je mettrais en avant aujourd'hui, quoi. C'est le fait qu'on continue à avancer plutôt avec un rôle assez affirmé de leader sur ce mode constructif et cette approche décarbonée. Et c'est ça la feuille de route pour la suite.
Julien Pemzec, si vous n'aviez pas été à la tête de Wood & Home, je crois que vous vouliez être navigateur. Hein. Vous avez grandi en Bretagne, vous êtes pur breton de cœur et d'esprit.
Ouais.
Un passionné de voile, c'est ça ?
Passionné de voile, effectivement. Et finalement, quand on dirige une entreprise, il y a un côté un peu skipper aussi, qui doit faire écho à ceux qui font de la voile.
Merci Julien Pemzec d'avoir partagé votre expérience professionnelle et de voile avec nous. Merci également à Guillaume et Johan. C'est la fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et puis on se retrouve jeudi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec GFIP et Inextinso.